carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
On nous dit que nos rois dépensaient sans compter, qu'ils prenaient notre argent sans prendre nos conseils. Mais quand ils construisaient de semblables merveilles, ne nous mettaient-ils pas notre argent de côté?
Que reste-t-il de Sacha Guitry? Quelques citations bien senties à l'égard des femmes, des mots d'esprit, des pièces de boulevard, une image écornée par les années d'occupation. Les pièces, les films de cet artiste façonné par l'esprit 1900 ont-elles vieilli? Le public d'aujourd'hui peut se faire son opinion grâce à la rétrospective et l'exposition qui lui sont consacrées en 2007. Sacha Guitry était un artiste complet et un artiste à temps complet, 7 jours sur 7, toute sa vie. Il fut en représentation, élégant, né sur les planches, enfant de la balle. Il fut comédien, écrivain, cinéaste, journaliste, auteur d'un roman, auteur de revues musicales, de sketchs, créateur de slogans publicitaires, dessinateur, photographe. C'était un éternel curieux et touche-à-tout des techniques nouvelles de communication de son temps comme la radio. Il vécut pour le théâtre, le cinéma, pour le public. Il a fait de sa vie une scène de théâtre mêlant vie privée et vie publique. Le théâtre, la scène, se confondent avec sa vie de la belle époque aux années 50. Libre dans ses choix et ses astuces, empruntant à presque toutes les formes des arts du spectacle, se moquant des enseignements conventionnels, cherchant rien moins que le génie de la France à travers le récit de la vie des grands personnages historiques de la France, son œuvre appartient en grande partie à la littérature du divertissement. Sacha Guitry croyait au génie de la France. Porté à l'admiration et à la révérence, il conserva dans la collection de son hôtel particulier, 18 rue Élysée-Reclus à Paris, les traces des hommes d'État, hommes de lettres et artistes de son temps, sans compter des tableaux et des œuvres d'art. Le temps s'est écoulé et les archives, le recul, le succès de son œuvre à travers les générations révèlent un personnage plus en profondeur, dont l'écriture dépasse les célèbres mots d'esprit, la légèreté et l'humour qu'on retient souvent. Il n'est qu'à lire le catalogue de l'exposition « Sacha Guitry, une vie d'artiste » pour découvrir et redécouvrir ses multiples talents. À leur tour et pour lui rendre hommage en 2007, à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, la Bibliothèque nationale de France et la Cinémathèque française ensemble mettent en scène le parcours de cet artiste à travers une grande exposition présente à la Cinémathèque à Paris d'octobre 2007 à février 2008. Avec nous aujourd'hui, les deux commissaires de cette exposition, Noël Giray, conservateur général du département des arts et des spectacles de la BNF, nom de code de la Bibliothèque nationale de France, et Noël Herp, historien du cinéma, maître de conférence à l'université de Caen, deux complices à l'origine de cette exposition. Noël Giray et Noël Herp, bonjour.
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 Noël Giray, comment est née l'idée de cette exposition?
L'idée de l'exposition est née, ma foi, d'une rencontre avec Noël Herp sur le fonds Guitry que la Bibliothèque nationale a eu. J'ai dit bien la chance, le privilège de pouvoir acheter il y a une dizaine d'années au secrétaire, l'ex-secrétaire de Sacha Guitry, Henri Jadoux. Comme vous le savez, il y a eu une grosse, grosse dispersion en dépit de la volonté de Guitry, de toutes ses collections. Et les collections étaient largement dispersées, même à travers le monde, à travers de nombreuses vacations. Mais Henri Jadoux avait pu sauver au moins un maximum de papiers de travail, de photos, de documents privés, documents de travail, et que la Bibliothèque nationale a pu racheter il y a 10 ans. Et donc c'est en travaillant avec Noël sur ce fonds que l'idée a germé d'une exposition et qui permettrait non pas, je dirais, de montrer un autre Guitry, parce que l'autre Guitry y sera aussi, mais un Guitry peut-être plus en profondeur, plus en épaisseur, ce que permettait cette archive.
Alors vous l'avez conçu autour de cette séquence, sept moments, lesquels?
Sept chapitres en effet. Le premier, ceux de chez nous. Ce que nous avons pris, en fait, et intitulé nos chapitres par rapport au titre de puiser dans l'œuvre de Guitry. Ce de chez nous, c'est le titre d'un film. Nous passons ensuite à Quand jouons-nous la comédie. C'est le travail de Guitry et les comédiens. C'est également un titre de pièce. Ensuite, tout commence par des chansons. Une vocation de Guitry s'adonnant à la chanson, surtout à l'époque où il épouse Yvonne Printemps. Ensuite, Ménage d'artiste. Alors là, c'est titre d'une pièce non réalisée, en fait, Ménage d'artiste, mais qui convenait bien. Ça, c'est le look, l'élégance Guitry, l'élégance de ses épouses, le goût de la bonne chère, le goût de la belle vie. Ensuite, nous passons le roman d'un auteur, où là, c'est un titre trituré, parce que c'est d'après le roman d'un tricheur. Nous passons à Comment on écrit l'histoire.
Ouais.
Et ensuite, pour finir, sur le 18, Élisée reclus, c'est-à-dire la boucle étant bouclée, ce de chez nous étant au début, tout ce qui va être les racines et la source, les sources des admirations artistiques, littéraires, politiques de Guitry, se retrouve dans sa collection Avenue Élisée reclus, qui boucle la boucle et qui est le dernier chapitre.
Alors, puisque vous êtes ici, on va en profiter pour vous demander un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce fonds Guitry conservé à la Bibliothèque nationale de France.
Le fonds Guitry est composé de 700 boîtes d'archives. Quand je parle d'archives, ce sont donc à la fois les textes premier jet des manuscrits de ses pièces, découpage de ses films, ensuite correspondance évidemment, correspondance de travail, correspondance privée, photographie, le fonds photographique, en plus de cette 700 boîtes de manuscrits, donc c'est quand même assez énorme et qui couvre l'entièreté de sa carrière. Vous avez une collection photographique, photos privées, photos de scènes, photos de films absolument exceptionnelles. Vraiment des milliers et des milliers de photos. Les affiches des pièces, les affiches des films, les dessins aussi.
Qu'il a réalisé.
Voilà, puisqu'il a été un très très bon et très, disons, prolifique dessinateur. Donc c'est un fonds qui est à la fois très très complet si on veut, je dirais, travailler en profondeur sur le travail de Guitry. Enfin, Guitry au travail plutôt, voilà. Ce que ne permet pas en général un fonds trop dispersé, ne permet pas d'avoir une vision d'ensemble. Alors là, je dirais que là, pour la première fois peut-être, vraiment, entre autres, je pense aux étudiants, des universitaires vont pouvoir travailler. Et entre autres, ça va faire crever quelques bulles, quelques légendes sur le Guitry, le cinéma, je n'aime pas la technique. Et puis on voit que Guitry, il est partout avec son crayon, son stylo, et qu'il connaît très très bien la technique cinématographique.
Alors, des chantiers en perspective pour les doctorants ou
j'espère,
les étudiants.
J'espère bien, n'est-ce pas, monsieur Herpe?
Pour vos étudiants, Noël Herpe.
Jusqu'ici, je ne suis pas sûr que les étudiants en cinéma connaissent bien Sacha Guitry. Moi, je constate quand même qu'en montrant des extraits de Sacha Guitry en cours, ça marche très bien. Le monologue de Faisons un rêve, par exemple. En fait, on s'aperçoit que par rapport à d'autres cinéastes de la même période, c'est beaucoup plus immédiat. Mm-hmm. Puis il y a quelque chose d'un peu grivois aussi qui plaît, quelque chose un peu leste comme ça, et puis une manière d'appeler un chat, d'être très franc, très spontané, de parler des rapports entre les hommes et les femmes, enfin de choses qui sont finalement toujours actuelles, et puis une espèce de liberté, et de manière de s'adresser directement au spectateur, enfin je crois que c'est quelque chose qui touche beaucoup les jeunes.
Où sont-ils conservés les films de Sacha Guitry?
Il y a un certain nombre de films qui sont à la Cinémathèque française, dont des copies vont être utilisées lors de la rétrospective qui s'annonce. Il y a quelques petites choses qui se trouvent, qui ne sont plus ou moins inédites, ou peu vues, qui sont aux archives du film, qui sont en fait un dépôt de des ayants droit Guitry, mais qui était réédité d'ailleurs à l'occasion de ces festivités, puisque je crois qu'on a sorti un coffret autour de Sacha Guitry, et notamment de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, qui était un film resté quasiment invisible,
qui était
un peu un ovni comme ceux de chez nous, puisqu'il s'agit un peu dans la continuité au moins théorique de ceux de chez nous, de filmer, enfin de rendre hommage aux grandes figures de la France, mais c'est encore plus radical que ceux de chez nous, puisque dans ceux de chez nous, il allait à la rencontre de ces gens qui étaient vivants, qui étaient âgés, mais justement parce qu'ils voulaient fixer leur
Faut peut-être en dire un mot puisqu'on en parle.
Ce de chez nous, c'est un film en 1915.
Oui.
Et où il a décidé, pour répondre au manifeste des intellectuels allemands, de faire un peu son manifeste des intellectuels français à lui, en allant voir Rodin, Monet, Renoir, Anatole France, Edgar Degas, et en fixant le geste finalement de tous ces grands hommes, le geste de Saint-Saëns dirigeant un orchestre fictif, ou le geste d'Auguste Renoir fixant des couleurs sur sa toile.
Ce qu'on sait peu, c'est qu'il triomphe. En fait, aimait le documentaire très tôt. Absolument. Il a dit que dans le cinéma, même s'il a fait des films de fiction, il aimait le cinéma documentaire. Il est resté attentif
Absolument.
Toute sa vie.
Oui, il disait le cinéma est intéressant lorsqu'il nous montre l'expédition Scott. Il aimait Chaplin, mais il n'aimait pas le cinéma lorsqu'il prétendait imiter le théâtre. Il pensait que le cinéma devait montrer de la vie et de la réalité. ne vais pas être dans le faux, dans l'illusion, que c'était en quelque sorte la chasse gardée du théâtre. Hein, c'est assez paradoxal. Et de cette manière, son cinéma, d'ailleurs même de théâtre filmé, est un peu un documentaire sur le théâtre, en fait. Puisqu'il s'agit toujours pour lui de fixer les traces de l'art, du geste artistique, que ce soit ce dont on parlait au sujet de ceux de chez nous, ou bien de fixer le geste, la parole d'un grand acteur, donc il s'agit de garder comme dans une sorte de conservatoire, en fait.
On verra peut-être un peu plus tard au cours de l'entretien qu'à un moment ça a basculé et il n'a pas fait que du film documentaire, surtout pas. Justement, il s'est emparé de.
Non, dès le début, puisque dès 1935, il fait un film qui est un scénario totalement original, bonne chance.
Mais visiblement, le cinéma muet ne le satisfaisant pas, c'est l'époque où il défend beaucoup justement le documentaire.
Enfin, il a quand même écrit un film de fiction,
mais qui a disparu.
Muet, mais qui est perdu à ce jour.
Et nous lançons un appel pour le retrouver. Ça s'appelle Un roman d'amour et d'aventure.
Oh.
Et pour revenir donc à ce de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, qui est dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu la continuité de ceux de chez nous, mais de manière beaucoup plus austère, puisque là, il se contente de filmer les pages d'un livre qui est une sorte de tombeau de la France, hein, où il a recueilli toutes les vestiges des grandes figures artistiques et politiques de la France, d'ailleurs parfois des pièces de ses collections qu'il commande d'une voix très solennelle. Enfin, c'est un objet à la fois fascinant et un peu effrayant.
Abordant un petit peu le Sacha Guitry comédien, dès sa plus tendre enfance, donc il a tout de suite été placé sur les planches par son père à Saint-Pétersbourg devant le tsar. Noël Giré, comment avez-vous rendu compte dans l'exposition de cette partie de l'enfance de Sacha Guitry et de son apprentissage de comédien qu'il doit en très grande partie à son père et de l'admiration qu'il lui portait, qui lui-même était un très grand comédien, vous allez sûrement nous
présenter. Alors dès le début, j'ai dit qu'on n'a pas choisi un parti, donc chronologique pour cette exposition. Hein. C'était vraiment ce chapitre de Tam qui nous semblait important de traiter et très révélateur de toutes les facettes de la personnalité de Guitry. Mais donc, à certaines parties, en effet, on retrouve à chaque fois une petite partie chronologique. Donc, pour le comédien, c'est l'enfant comédien. Il n'est pas tout à fait enfant comédien quand il est avec son père. En fait, son père, en 1890, qui est toujours sous contrat au Théâtre Michel à Saint-Pétersbourg, l'enlève à sa mère, puisque déjà les parents Guitry sont séparés à l'époque, et il l'emmène. Et l'enfant va passer des mois, dont il gardera visiblement un souvenir totalement émerveillé auprès de son père. Et on verra dans l'exposition ce petit jeu de photos où on voit le petit Sacha dans différents costumes, puisque son père lui fait, disons, sur mesure, des costumes qui reprennent ses rôles principaux au théâtre. Voilà, ça sera une façon d'évoquer. En outre, en effet, il a quand même fait une pantomime devant le tsar avec son père, puisque le tsar Alexandre III était le parrain de Alexandre Guitry, dit Sacha. Pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs Alexandre dit Sacha. Et ça va énormément le marquer. Le troisième terme aussi qui va beaucoup le marquer, enfant, et qu'il va exploiter aussi bien dans son écriture que dans son jeu, ça va être la rencontre avec le cirque. C'est-à-dire il va tomber enfant fou, amoureux du cirque, qui a une énorme importance au XIXe siècle.
Oui, enfin, on l'oublie, qui n'a pas l'importance qu'il a aujourd'hui.
Qui a repris beaucoup avec le nouveau cirque. Mais c'est vrai qu'il y a eu un creux de la vague pour le cirque, et qu'au XIXe siècle, les enfants sont très marqués, le petit Cocteau le sera de la même façon. Et le petit Sacha va être très très marqué par le clown d'Ourof, et toute sa vie, il va célébrer à la fois à travers des dessins, mais à travers des articles, mais également, si on examine le jeu de Guitry, il va rencontrer le cirque, en fait, à Saint-Pétersbourg.
Dans son maquillage.
Ils ont tous une expression, et le mime y compris. Ce sont des spectacles autour du théâtre, mais qui sont très très encore valorisés à l'époque, comme la marionnette d'ailleurs, Guignol, et qu'on retrouvera d'ailleurs au fil de l'exposition. Quand il sera nécessaire de le citer.
Et on retrouve ce personnage du clown aussi, même dans ses slogans publicitaires.
Complètement.
Donc,
il se sert vraiment de cet univers comme
moyen de communication pour faire passer toutes ses idées.
Pour lui, il dit il n'y a pas de différence, il n'y a pas de grands, petits artistes, il n'y a que des bons, du mauvais. Donc tout se défend.
Alors, il ouvre en 1919 une salle de théâtre qu'il achète. Et là, il va reprendre justement ce dont on parlait tout à l'heure, une sorte de causerie, sous la forme d'une causerie, ceux de chez nous. Et on voit d'emblée que tout se mêle chez Sacha Guitry. L'écriture, le spectacle, le jeu, c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. Mais là, on a vraiment, quand il va être en quelque sorte un peu arrivé, il va vraiment prendre toute sa liberté, toute sa dimension. Cette période où il se révèle, c'est une période qui correspond à quoi pour lui
Elle ne va pas arriver tout de suite, déjà. Parce qu'on parlait de son père, son père... va peut-être jouer peut-être un peu à la poupée avec lui quand il a 5 ans, mais ne va pas lui faciliter l'arrivée sur les planches. C'est-à-dire que son père, c'est le monstre sacré. Vous avez Sarah Bernhardt chez les femmes et Lucien Guitry chez les hommes.
Alors en plus, il les connaissait.
Sa mère très possessif,
il connaissait
en fait.
Les deux.
Oui, absolument. Il a été élevé. Oui, pour
il
lui,
a été élevé dans
Sarah,
un
monde. C'est la déesse. Ouais. C'est la. La mère qu'il n'a pas vraiment, puisque sa mère va mourir très jeune, qui est comédienne aussi, mais pas du même statut. Mais c'est vrai que Lucien Guitry, c'est un personnage intéressant d'ailleurs, Lucien, mais qui n'est guère facile. Il a deux fils en fait, puisque Sacha a un fils aîné, il y a un an de différence, Jean, qui va d'ailleurs s'écarter lui vraiment de son père, parce que à la fois Lucien est possessif et directif, tout en disant d'une certaine façon catapultant complètement leur éducation. Je veux dire, la mère à la garde des enfants et en même temps, Lucien arrive, mais une pagaille totale. Mais il veut quand même être un père directif. Donc, quand Sacha va tout à fait naturellement vouloir être un acteur, il va devoir prendre un pseudonyme. Son père va lui, je ne dirais pas lui donner des panouilles, mais enfin, bon, pas... Et puis, peut-être aussi Sacha, je crois qu'il l'a reconnu, n'était-il pas doué pour jouer peut-être un répertoire autre que le sien. C'est peut-être ça qui va l'amener à se révéler par l'écriture.
Et puis ce sont ses rencontres amoureuses aussi peut-être.
Voilà.
Il y a eu l'influence de sa première épouse, Charlotte Lizès, qui a évidemment lui a permis de, un peu, si je, peut-être pas de tuer le père, mais au moins d'affirmer sa, son identité d'auteur et ensuite d'acteur, puisque c'est un peu, en effet, de fil en aiguille qui va être amené à jouer ses propres pièces. Je ne dis pas, disait-il, les jouer très bien, mais au moins très bien les jouer. Et c'est vrai qu'on n'aura jamais vraiment d'expérience d'acteur à part cela, en dehors de ses, son propre texte, à part, on montre dans l'exposition un document Henri Bataille qui lui propose de jouer une pièce qu'il aurait écrite pour lui et pour Réjeanne, et puis plus tard Maurice Lehmann qui lui propose de jouer Cyrano de Bergerac à la Porte Saint-Martin en 36, et Sacha se récuse en disant oui mais je ne sens pas le rôle parce que je ne suis pas un ténor, je suis un baryton. Mais en tout cas, non, c'est Sacha Guitry, on peut dire, a d'abord donc a été acteur, mais il a d'abord été caricaturiste et il l'est resté très longtemps. En tout cas, il a d'ailleurs dit jusque dans les années 30, je suis d'abord un caricaturiste. Et il l'est en effet dans l'écriture très très déliée, très légère, très très fine de ses pièces. Il est aussi un journaliste très tôt puisqu'il écrit pour Comédia.
Il faut qu'il gagne sa vie en quittant son père avec Charlotte.
Je dirais que Sacha Guitry, c'est le premier auteur multimédia, absolument. Et c'est quelqu'un qui touche à tout, peut-être plus encore que Cocteau, qui touche à toutes les étapes de la création et qui, même pour une seule œuvre, la décline de diverses manières, que ce soit Romain Tricheur, par exemple. On montre dans l'exposition qu'il c'est d'abord un roman qu'il publie dans la revue Marianne, ensuite qui devient un livre Gallimard, ensuite qui devient un film, ensuite publicité, objet dérivé.
Après
affiche,
des conférences, il n'en a pas fait avec le roman d'un
beaucoup de textes
si,
autour.
Il tenait beaucoup aux conférences. Pour lui, les causeries, les conférences étaient importantes comme rapport au public, très très intense. Et il en a fait toute sa vie, pratiquement. À travers des tournées.
Les conférences aussi qui sont recyclées ensuite en émissions de radio ou même en télévision, etc.
Enfin,
c'est quelqu'un qui veut absolument exploiter son idée jusqu'au bout et sous toutes ses formes.
Que pensait-il de la comédie? Parlez-nous par exemple de l'illusionniste, du comédien, ce sont des thèmes.
Tout dépend ce qu'on met sous le derrière.
Oui, je dirais que comédie. En tout cas, en ce qui concerne la comédie, au sens, disons, théâtre de boulevard du terme, c'est quelque chose dont il s'est finalement un peu démarqué, puisqu'il était ami avec Feydeau, il admirait sans doute Labiche, mais en même temps, et comme le montre bien un texte du catalogue d'ailleurs, il a plutôt été influencé par des auteurs comme Maurice Donnet d'un côté, qui sont plus dans la comédie de mœurs, qui sont des gens qui ont un peu rompu avec la pièce à intrigue, avec la pièce bien faite, qui était en usage au XIXe siècle, et puis des auteurs plus loufoques, plus fantaisistes comme Alphonse Allais ou même Alfred Jarry. Et je crois qu'il a voulu apporter une espèce de liberté, de fantaisie, un parler assez naturel, ce qui se faisait pas beaucoup dans le théâtre de la Belle Époque.
C'est
dans le théâtre de Guitry, on parle comme dans la vie, et c'était pas si fréquent.
À l'époque, c'était pas fréquent.
Et je crois que c'est pas du tout un auteur de vaudeville, en fait, Sacha Guitry. Il fait de la comédie de caractère, de la comédie de mœurs, de la comédie sentimentale, un peu comme le Fra Lubitsch au cinéma 30 ans plus tard. Il invente la comédie américaine, je dirais, dans le théâtre français.
Que disait-il des comédiens?
Il aimait beaucoup les comédiens.
Oui, sa famille.
Fils de comédien.
Sa famille d'origine.
Sa famille.
Ça, c'est vrai. Puisque même sa mère, qui ne s'exerce pas, alors elle, qui n'a pas la stature de star, ni de monstre sacré, mais elle s'exerce dans le théâtre d'art, dans le théâtre d'avant-garde, en fait. Mais elle aussi est dans le métier. Donc, c'est quand même son... quand son père vit avec d'autres femmes, ses femmes, ses autres femmes sont des comédiennes aussi.
Mais lui, lui-même...
Et lui n'a jamais pu supporter de vivre avec une femme qui ne fut pas comédienne,
oui,
puisque même Dolana Marconi, il a fait une comédienne, tant bien que mal, mais il en a fait une comédienne, Geneviève de Séréville, etc.
C'est complètement son oxygène, je crois, la troupe, les comédiens, et les comédiens de, alors aussi bien de théâtre que de musical, puisque c'est l'époque où le théâtre utilise aussi, à travers justement parler de la comédie, beaucoup de comédiens qui passent aussi bien d'un genre à l'autre, hein, du théâtre au musical.
Théâtre musical.
Aussi, voilà, qu'il participe au genre qu'on appelle la revue.
Non seulement il a plusieurs écritures, mais...
Beaucoup de cordes à son arc.
Voilà.
Et protéiforme aussi.
Voilà,
hein.
Voilà.
Oui, c'est-à-dire, en fait, c'est un conservatoire aussi dans ce sens-là.
Dans ce sens-là.
C'est-à-dire que depuis les acteurs, effectivement, venus du musical, comme Max Derli ou même Gaby Morlaix, jusqu'à Ourému, jusqu'aux acteurs de cabaret des années 50, Darry Cole, Jean Poiret, Michel Serrault.
Alors, ça, c'est pour la partie
plus tardive.
Oui, tardive, c'est une continuité.
Effectivement,
si
c'est
la continuité jusqu'au bout.
En passant par des artistes de chansons comme Charles Trenet, Mouloudji, Yves Montand, qu'il convie dans ses films. Ça va jusqu'à Gérard Philippe, Jean-Louis Barrault, des gens qui étaient dans un théâtre, plus dans un théâtre d'art, entre guillemets. C'est quelqu'un qui veut rassembler autour de lui toute la grande famille des acteurs.
Je dirais, le feu d'artifice final, c'est finalement les films historiques. Ou alors là, ça devient
l'apothéose.
Voilà, un conservatoire de.
On se disputait pour jouer.
Il y a de vieux acteurs qu'il a admirés, un peu oublié,
dans ses films.
Qui ont juste une scène, comme Simon Girard.
Quelques mots, quelques apparitions,
voilà.
Tout ce qu'il aimait.
Et ça, je crois que c'est un peu cette apothéose de l'amour et du respect qu'il leur porte.
Donc sa grande famille, on vient de dire que c'était effectivement les comédiens. Mais quel était son milieu? Dans quel milieu comment on pourrait décrire le milieu social de Sacha Guitry, sa vie
Le théâtre, bien sûr.
Mais
un certain théâtre, évidemment.
Quels étaient les gens qu'il fréquentait? Est-ce que c'était un mondain?
Pas tout à fait. C'était
un ambassadeur du goût.
Mondain, c'est l'image qu'on lui donne.
Alors justement, est-ce que vous pouvez décrire un peu son milieu?
Mais je crois, quand au travail sur Guitry, on le voit, la matière, je sens dans les archives, c'est que bien sûr, il est souvent en smoking dans un gala, sauf qu'on oublie une chose, le gala, c'est lui qui l'organise, il le prépare, il choisit les comédiens, il écrit des sketchs, il fait les comptes. Donc il est forcément, évidemment, sous les feux des projecteurs, mais il travaille.
Oui.
Quand il est au Casino de Deauville, il travaille parce qu'il va y jouer, il y fait une conférence. Donc le côté mondain est finalement strictement réduit à des obligations qui sont de travail. Parce que c'est un homme, en fait, il joue, il écrit. En fait, il soupe, mais souvent le souper, on le voit, il ramène ses amis chez lui.
Oui.
Et puis ils s'en vont, puis lui, il s'enferme.
Puis lui, il continue
à
travailler. À
écrire. Donc, il a une capacité
très clos, hein, ça montre très clos.
Hein.
L'Élysée reclus, hein, justement, c'est vraiment le reclus de l'Élysée. Hein.
Oh, ouais.
Même quand vous verrez dans l'exposition la section qui est charmante, c'est l'époque Yvonne Printemps avec André Messager, les photos de Jacques-Henri Lartigue. Alors évidemment, ils sont à Royan avec les Villemettes, mais ils travaillent tous ces gens-là. Messager est au piano, il compose, Yvonne, elle chante. Bon, entre deux, ils vont se baigner, Lartigue fait des photos. Et c'est complètement un monde. C'est les vacances et c'est le travail en même temps. Voilà.
Ce sont des fous de travail.
Oui,
fous de création.
Une production énorme hein, quand on approche la production.
Ouais, il a plus d'une centaine de pièces, une trentaine de films, des centaines d'émissions de radio, des émissions de télévision, des conférences, des galas, des publicités, des caricatures. C'est un polygraphe absolument infatigable.
Bon, pour finir sur le chapitre des comédiens, comment s'est-il comporté lui-même avec les comédiens? On sait des choses, on a des anecdotes?
Je crois que c'était un directeur d'acteur très, si on peut dire aujourd'hui, très cool. C'était pas quelqu'un de dictatorial ni de tyrannique. Ça se passait d'une manière assez conviviale, puisque très souvent il recevait les gens avant, ou bien Avenue Élysée Reclus, ou bien il y avait quelque chose comme ça d'assez familial là aussi.
Vous avez, je crois, dans le catalogue recueilli des entretiens de certaines comédiennes.
Oui, avec Françoise Arnoul, Jory Boué, Yvette Lebon, qui raconte que c'était un peu comme ça, un climat de complicité, très précis certainement au niveau de la mise en place, etc.
Et on était exigeant.
Dans le cahier de régie.
Mais en même temps, avec toujours quelque chose d'agréable, qui faisait que je crois que l'effort ne devait pas se faire sentir, ne devait pas être visible. Mais avec des choses effectivement très, très difficiles à faire malgré tout, puisque je crois qu'il demandait à Jory Boué, par exemple, dans La Malibran, de chanter en direct avec un orchestre de 40 musiciens derrière elle, sans que l'effort soit visible, et tout ça avec la voix en direct.
Ouais.
Donc, parce qu'il y avait toujours cette volonté de capter le geste artistique, ou la voix en l'occurrence, de manière sans intermédiaire. Mais je crois qu'il cherchait au fond, on a l'impression qu'il préparait beaucoup de manière solitaire. Il écrivait, on s'aperçoit dans ses scénarios, il écrivait des storyboards.
Les gens précis déjà. Parce qu'il y a les deux choses, il y a les comédiens qu'il choisit pour un rôle. Mais aussi, il a la troupe de base, puisqu'il a ses fichiers. Il y a des petits fichiers avec les emplois. Chacun, voilà ce qu'ils ont joué. Ça, c'est les Pauline Carton, c'est les Marguerite.
Oui, parce qu'il y a les comédiens et des comédiennes qui vont revenir toujours dans ces films.
Voilà, qui connaissent très bien ce que veut le maître aussi. Hein, donc, ça doit se passer.
C'est ça.
Et puis, tout d'un coup, la comédienne, le comédien...
La distribution, c'est d'abord une affaire de choix et d'affinité élective. Ouais. Et puis, en même temps, on s'aperçoit en voyant ces manuscrits, les manuscrits de ces scénarios. Bon, il y a aussi, effectivement, le fait qu'il faisait des lectures, hein, qu'il lisait ses textes et qu'il communiquait sa voix presque inconsciemment à ses interprètes. Et on s'en aperçoit quand on voit les films de Guitry. Souvent, tel ou tel acteur a un peu la musique Guitry dans la bouche. Enfin,
on n'a pas parlé de sa voix, d'ailleurs.
Il a une voix très particulière, une voix très mélodieuse, une sorte de parler chanté, une manière d'être baryton, certes, mais d'aller aussi beaucoup dans les aigus. Une voix qui peut paraître un peu désagréable, mais en même temps qui est très riche dans ses modulations. Et en même temps, quelque chose d'assez versifié dans l'écriture, même quand il écrit en prose. Et ça, on a souvent l'impression que des acteurs très différents ont ce ton Guitry qu'ils ont un peu malgré eux, peut-être par la fréquentation de...
Par mimétisme.
Il y a
une grosse complicité liée à, en effet, un travail de fond qui se répète de pièce en pièce, finalement.
Mais alors, l'autre aspect qui est intéressant, c'est qu'il fait un travail dans ses découpages de films qui est quasiment un travail d'assistant, puisqu'il note tous les numéros des plans à l'envers, à l'endroit, les listes de décors, les chronologies, des petits storyboards pour les génériques ou pour tel ou tel plan, le son, l'image, etc. Enfin, c'est une précision absolument incroyable chez cet homme dont on a dit indifférent à la technique.
Ouais.
Comme s'il fallait tout préparer, mais de manière assez solitaire, de manière à ensuite laisser l'acteur le plus libre possible à l'intérieur de ce cadre que lui avait décidé.
Que lui connaissait bien aussi. Alors, merci pour cette première partie consacrée au Guitry comédien, quand même. On va poursuivre dans quelques instants sur Sacha Guitry, l'écrivain, l'auteur. Mais on voit bien que tout se mélange chez Sacha Guitry, tout se tient plutôt.
C'est difficile de le saucissonner.
Voilà, c'est impossible. C'est pour ça que vous avez choisi 7 séquences, mais on ne peut pas en choisir autant pour aujourd'hui. Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe, vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Nous reprenons le cours de notre émission avec Noël Giray, conservateur au département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France, et avec Noël Herp, historien du cinéma. Alors, Sacha Guitry, on a parlé un peu tout à l'heure de son écriture. On va revenir sur, justement, ses talents d'écrivain. L'autobiographie a alimenté son œuvre. Et aujourd'hui, même si de nombreux romans, évidemment, s'occupent d'autobiographie, se nourrissent d'autobiographie. Alors, là aussi, a-t-il été novateur? Quelle liberté prenait-il avec lui-même cette fois?
Il a fait de l'autobiographie.
Noël Herp.
Je dirais assez tôt, puisque avec Si j'ai bonne mémoire dans les années 30, qui est en fait une série de conférences qu'il avait données un peu plus tôt à la presse, enfin à la conférence ou causerie ou article, c'est devenu ce livre qui est une autobiographie assez classique. Je ne sais pas s'il a été novateur dans ce domaine. Disons qu'il a été dans une mouvance d'époque, hein, que les écrivains écrivaient très tôt leurs souvenirs dans la presse, la donnaient en bonne feuille. Et puis, ce qui est à mon avis plus intéressant, c'est peut-être la série sur le problème de l'épuration, l'occupation, 4 ans d'occupation et 60 jours de prison, je dirais que c'est plutôt un plaidoyer. C'est plutôt un plaidoyer.
Quelque chose qu'il a écrit pour se justifier, c'est pas la même chose.
En même temps,
témoigner.
Avec une verve polémique extraordinaire.
Une écriture un peu différente.
L'autobiographie, elle est surtout présente dans son théâtre, évidemment, à travers l'évocation.
Non, ça n'a pas de se mettre en scène, il se sert de la matière première, c'est sa vie privée. C'est pour ça qu'il y a un côté où c'est vrai qu'il va moins s'extérioriser ou partir à la recherche d'une matière comme Cocteau à l'extérieur. C'est un monde très clos, en fait. Et c'est ça, la marque de fabrique, certainement, de Guitry. Pratiquement tout Paris qui va au théâtre voir une pièce de Guitry sait ce qui se passe exactement avec Charlotte ou Yvonne, à quel point il en est.
Oui.
Le tout, bon, n'est pas forcément non plus vulgairement exhibitionniste,
parce
que ça, c'est la grâce et le talent de Guitry. Mais c'est que vraiment, il a cette matière première, c'est sa vie. C'est sa vie, celle de ses proches. Il était connu d'ailleurs, il paraît que chez lui, il avait toujours un petit carnet, en fait. Et prenez des notes. Sa matière première, c'est les... De même que les premières matières premières qui vont l'enrichir, c'est les amis de papa. Toute sa vie va être accompagnée comme ça par la mémoire de Monet, de Mirbeau, de ceux de chez nous, en fait.
Oui, et puis
ça va être après
de Tristan
aussi,
Bernard,
de Tristan Bernard, absolument. Mais aussi, après, c'est au plus proche de... Et puis, bon, l'importance de l'amour, les femmes,
alors,
ces femmes.
Et... Voilà.
De l'amour et du désamour, voilà. Puisqu'il met,
il a mis en scène les deux.
Je crois que alors là, on peut peut-être dire que c'est un de ceux qui aurait peut-être été le plus loin dans ce
quelque chose qui est de l'ordre, peut-être pas de l'autobiographie, mais de l'autofiction, au sens
voilà,
moderne du terme.
C'est ça.
Et ça aussi, c'est la modernité de Guitry, effectivement, qu'il n'y ait pas tellement de différence entre la vie et le théâtre, et que ce qui, en effet, se faisait peu à l'époque, tout d'un coup, il est lui-même dans ses pièces. Je dirais que la pèlerine écossaise, c'est un peu déjà son désamour avec Charlotte Lysès.
Oui. C'est même carrément.
C'est carrément. Absolument. L'usure du couple, effectivement, qui ne se regarde plus, qui ne se cherche plus à se séduire, etc.
Même un sujet de roman, si c'est la vie de Mirbeau, le mariage malheureux de Mirbeau, c'est déjà aussi une il le prend comme matériau, mais c'est le sien aussi.
Déjà, Nono, c'est déjà la scène de ménage entre son père et ses maîtresses. Et puis, ça va être dans Franz Hals, où il y a aussi toute cette espèce de ménage à trois, un peu en suspens, là, qu'il forme avec Pierre Freinet et Yvonne Printemps. Mmh. Et puis, Bonne Chance, qui est d'une certaine manière le film de son amour avec Jacqueline de Lubac, où elle l'entraîne sur les routes, comme ça, dans un road movie avant de l'être.
Et on ne peut pas douter du bonheur qui...
Absolument, c'est le bonheur de ce jeune couple, bien qu'il ait eu 20-25 ans de plus qu'elle, irradie l'écran. Enfin, c'est extraordinaire. Comme si vraiment... Je crois que pour Sacha Guitry, il n'y avait pas de solution de continuité entre la vie et le théâtre. Hein, c'était la même chose.
C'est presque dans l'après-guerre. Où là, c'est comme s'il avait un regard sombre, évidemment, mais c'est plus pendant... social. Mmh. Quand ce soit La Poison,
oui, là, c'est
les films où là, il sort de son milieu, de son monde à lui.
Comme si l'expérience, peut-être, voilà. de ce
et
qu'il avait lui-même
même
vécu.
Une certaine vision assez large et classique de la noirceur d'une société.
Ouais. Il se met en retrait.
Il se met un peu plus en retrait.
Aussi parce que le moment où il est malade, où il a plus de mal à jouer.
Lui-même devient plus pessimiste.
Et il délègue un peu sa vision du monde de plus en plus pessimiste à Michel Simon, qui va être son double privilégié.
Ouais.
Qui va incarner un peu cette misanthropie du Sacha Guitry d'après-guerre.
Ouais. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les 60 jours de prison, qui est le titre d'un livre qu'il a écrit justement suite à l'incarcération qu'il a subie parce qu'il a été condamné au moment de l'épuration. Alors, le texte est écrit à la main. Moi, l'exemplaire que j'ai vu, que j'ai trouvé, c'est un manuscrit, quoi, facsimilé, donc c'est assez émouvant. Et malgré la situation de ces 60 jours de prison, on y trouve effectivement des anecdotes. Le geôlier qui ouvre la porte et il pense qu'il va être tué d'un moment à l'autre et il arrive à blaguer de cette situation. Donc c'est à la fois un témoignage, mais et aussi on y retrouve sa patte. Effectivement, dans son écriture, vous parliez tout à l'heure de ces deux ouvrages, il y en a un autre.
Il y a
4 ans d'occupation qui est
un autre ouvrage autobiographique intéressant qui est aussi en facsimilé, c'est Ma maladie.
Oui.
Où il raconte sa maladie avec le baromètre de sa fièvre, etc.
Et alors c'est plein d'humour.
Les visites, les gens qui déjà le croient perdu, etc. Les médecins, enfin c'est vraiment l'art d'arriver à mettre en scène l'intime.
La mise à distance.
Ouais. Et quand on le lit, on a l'impression d'être au théâtre. Enfin c'est assez.
Ces manuscrits sont mis en scène.
Voilà,
déjà.
D'ailleurs,
il dessine ses affiches, il dessine les couvertures.
Il y a des dessins.
Il est toujours en représentation.
On voit tous ses talents.
Mais moi, je trouve que ce sont de très beaux textes, 60 jours de prison, 4 ans d'occupation, des textes presque dignes de Céline, parfois, dans une espèce de verbe d'agressivité, de pugnacité, de désir de démasquer les hypocrites, les tartuffes qui l'ont mis un peu dans cette espèce de situation fausse. Je pense qu'il n'a pas eu tout à fait raison en même temps de publier ces deux livres, parce que c'est vrai que c'était peut-être un peu indécent au moment où l'Europe sortait de la guerre, d'aller se présenter comme un martyr qui n'était évidemment pas. Il était simplement victime d'une certaine exagération médiatique. Et je crois que ça joue un peu aujourd'hui dans le fait qu'aujourd'hui encore, on dit Sacha Guitry collabo, alors qu'on ne le dit pas de gens qui ont été plus, sans doute plus mouillés que lui, comme Cocteau ou Monderland ou d'autres. Peut-être parce que Sacha Guitry a un peu mis en scène ça aussi.
Il y a Noël Giray qui l'a aidé.
Il était très sollicité. C'est une personnalité très en vue. Et c'est ce que certains lui ont dit, même des amis. De certaine façon, le système allemand de l'occupant, c'était de compromettre au maximum une vedette, justement. Pour montrer, regardez, nous occupons la France. Bien, elle continue. Et lui, un peu plongé... Puis c'est vrai qu'il a, en fait, c'est qu'il allait demander, on lui donnait des listes de noms et il essayait de sauver les gens. Ça, c'est vrai. Au départ, est vrai et il est resté assez sincèrement jusqu'au bout avec un certain courage. Il ne s'est jamais démenti. Il était pétainiste parce que Son père étant une grande vedette de l'époque, il faut savoir que le théâtre, la littérature et le politique marchaient très très bien, surtout au XIXe siècle. Ces gens fréquentaient les mêmes salons, se connaissaient. Donc le père connaissait déjà aussi bien Clémenceau,
oui,
et Pétain, le jeune Pétain, le jeune Foch. Au départ, ils étaient jeunes, ces gens.
Et
donc
et lui,
Sacha
les a connus
enfants, n'ayant aucun sens politique par ailleurs. Il faut quand même le dire. Il ne voit que le grand homme. Hein. C'est le grand personnage. La grande figure. Mais il n'a pas du tout de finesse, de jugement politique. Ça ne l'intéresse pas. Il l'a avoué, d'ailleurs. Et donc, il est resté accroché au pétinisme. D'où ce livre de Jean d'Arc à Pétain.
Alors,
qu'il a revendiqué jusqu'après la guerre.
Mais qu'il a revendiqué, il est resté.
Alors dans ce livre, c'est une suite de grandes figures de l'histoire de France.
L'histoire de l'art, surtout.
De l'histoire de l'art, de l'histoire de France.
Des
écrivains, il y a tout.
Il y a même Bergson, Richelieu,
il y a des
politiques.
Il y a même le Jacques de Zola.
C'est les grandes heures qu'on fait la France.
Les grandes heures de gloire de la France. Et il a fait donc d'abord le livre ou d'abord le film ?
D'abord le livre. D'abord la conférence, ensuite le livre.
Le film, c'était uniquement un support à une vente aux enchères à l'opéra pour le secours aux prisonniers, en fait.
Alors là, au moment où sort le livre, on est en quelle année exactement ?
44.
Très mauvaise période, mais 44 pour son livre.
Ça montre son inconscience et en même temps son absence totale d'opportunisme.
Ouais, parce qu'il
fait le gala de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, il le fait en avril 44. Il faut le faire quand même.
Donc, c'est qu'il montre bien qu'il ne perçoit pas du tout ce qui est en
train. Il a fait un film qui s'appelle Donne-moi tes yeux, où il se met en scène en sculpteur qui devient aveugle. Et en même temps, qu'il voit très bien ce qui se passe autour, mine de rien, mais qu'il le voit sans vouloir le voir. Je crois que ça traduit bien cette position de vouloir se retirer dans son Élysée. Justement, dans son monde intérieur et de se réfugier dans une espèce de France mythique, passée. Construisons à la France un passé magnifique, écrit-il dans la Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, comme s'il y avait une sorte de vulgarité du présent, une sorte de contingence qui, face à laquelle il préfère se mettre à distance. Et il avait cette idée naïve que la continuité de la France, elle était dans son histoire, dans son passé, et que c'était en perpétuant ce souvenir par des œuvres comme celle-là, en remontrant ceux de chez nous, en remontant sa pièce Pasteur, c'était ainsi qu'il faisait œuvre de patriotisme. Comme si la résistance, finalement, n'était possible que d'une manière idéale. C'est une idée un peu naïve, mais en même temps assez digne, malgré tout.
Alors, comment en avez-vous rendu compte dans l'exposition, Noël Giray? Est-ce que cette période de... Comment?
Il n'y a pas de raison, pas de... au contraire, de l'évacuer.
Non,
c'est évident que c'est à travers le catalogue que nous tenions dès le début. Est-ce que justement il y a un article, puisque les archives maintenant nationales sont ouvertes, on peut accéder au dossier. Et d'autre part, il y a énormément dans le fonds Guitry de boîtes. Il s'appelle l'affaire, c'était marqué par son secrétaire, l'affaire. Et donc il y avait un matériel,
Henri
Jadot,
qui
avait reclassé et préservé les archives. Donc il y avait un matériel complètement ouvert, parce que... Enfin, en tout cas, pour moi, je ne voulais pas que, si vraiment, moi, à la limite, ça m'intéressait de savoir, était-il vraiment coupable, puisque régulièrement, c'est vrai que quand on revisite la période de la libération et de l'épuration, la tête de Guitry dépasse toujours. Ça, c'est évident, et il en reprend. Donc, c'était l'occasion jamais. En tout cas, moi, je trouvais, en démarrant l'exposition, de faire une fois pour toutes le point sur l'affaire. Était-il vraiment... Mais il avait été blanchi. Mais après tout, maintenant, les archives s'ouvrent. Alors, allons-y. Donc, à travers le catalogue, là, il y a un article de fond qui prouve bien, on arrive aux mêmes conclusions. C'est-à-dire ce départ de naïveté politique,
ce manque de vigilance,
ce pétinisme. Mais en même temps, c'est vraiment un petit. Dans ce cas-là, il ne méritait pas cet excès de déshonneur.
Puis je crois qu'il fait partie de cette génération qui n'a pas perçu la différence qu'il y avait entre la guerre de 39-45 et celle de 14-18. Qui n'a pas vu vraiment la différence de nature profonde et qui restait un peu sur des schémas peut-être pas très anti-allemands, mais en même temps, il faut pactiser avec, sans voir trop ce qui se passait derrière, ou sans vouloir le voir. Mais...
Et donc, dans l'exposition, il y a quelque chose de...
Et dans l'exposition, il y a la présentation du livre qui est montré, qui de toute façon fonctionne. En effet, c'est une espèce de complément du film Ceux de chez nous. Puisqu'on est toujours, en fait, dans cette filiation et cette fidélité qu'il a, ces admirations qui continuent et qui sont un peu le fil rouge de l'exposition, d'un bout à l'autre.
L'admiration, donc, c'est ce que vous dites dans votre catalogue.
L'admiration, c'est un qui a énormément besoin d'admirer.
C'est le fil conducteur.
C'est le film. Il adore son pays. Il a toujours dit l'amour qu'il portait à son pays. Ce qu'il ne l'a jamais, ça, parce qu'il faut le démarquer d'un certain nombre de gens qui, à la même époque, entre autres à l'Académie Goncourt, avaient cet amour de la France qui les menait à un nationalisme qui fermait la France. Ça n'a jamais été son cas. Lui, je dirais, ça on peut le saluer, ce n'est pas un nationalisme qui ferme les portes. Hein,
absolument pas antisémite, entouré d'amis juifs, enfin, depuis son enfance.
Voilà.
De Sarah Bernhardt à Tristan Bernhardt, à Henri Bernstein, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui a vécu dans une.
Par ailleurs, c'est un homme de théâtre, il aime le fastueux, le geste fastueux, il a ça dans la réalité, d'où ses petites nostalgies royalistes.
Oui, je crois que ça tient à son goût du passé aussi. C'est quelqu'un, un homme qui se réfugie dans le passé. Et en fait, quand on voit ses goûts littéraires, picturaux, théâtraux, ça s'arrête beaucoup en 1914. C'est le monde de Jules Renard, d'Octave Mirbeau, d'Alphonse Allais. Ça ne va pas tellement au-delà. Guitry n'est pas quelqu'un qui s'intéressait au surréalisme, à l'art moderne.
Dans les avant-gardes.
Dans les avant-gardes, pas du tout. Donc ça explique un peu qu'au fond, il a perpétué une sorte d'âge d'or intellectuel qu'il avait connu dans sa jeunesse. Et il a poursuivi ce rêve toute sa vie, au fond.
Donc je pense que dans l'exposition, on ne fait pas de démonstration réelle de cette période-là. Mais elle y est. À plusieurs,
ne serait-ce que parce qu'on évoque absolument à travers une borne critique les guitryphobes, les attaques anti-guitry et la manière dont les caricatures ont plu sur lui, les caricatures pour représentant Monsieur Moa, comme on l'appelait, se mettant en scène jusque dans sa cellule, etc. Je sais plus, il y a une caricature où il dit « si j'épousais Shirley Temple », etc., pour me dédouaner. C'est assez amusant, en même temps des choses très très méchantes d'Henri Janson, de Georges Sadoul, enfin. Guitry a été très populaire d'un côté et très attaqué par la presse pour des raisons politiques. On lui reprochait d'être embusqué, on l'a accusé d'être pendant la guerre, l'occupation, d'être juif, ensuite on l'a accusé d'être collabo, on l'a accusé d'être mauvais cinéaste, de ne pas respecter les règles de l'art dramatique, enfin il avait toujours
tort.
Quoi qu'il fasse, il avait tort.
Il était très critiqué.
D'ailleurs, il a été absolument cinglant avec la critique, qu'il appelait vieille carne, et qu'il a, je crois que le degré zéro de l'activité intellectuelle, pour lui, c'était la critique. Il a tout fait, Sacha Guitry, sauf de la critique.
Alors, comment était-il reconnu par les autres écrivains? Il a été admis à l'Académie Concours. Quels étaient ses rapports?
On sent mal.
Quelle bataille a-t-il mené pour
C'était une bataille
d'Hernani,
cette affaire, parce que le jour où il a été élu à l'Académie Goncourt, à la place, je crois, d'André Billy, qui était très soutenu par Le Figaro, il a fait une allocution vengeresse à la radio, attaquant Lucien Descaves, qui ne voulait pas de lui. Et je crois que c'était lié au fait que Lucien Descaves était copain avec Lucien Guitry, mais n'aimait pas beaucoup Sacha, et on le percevait un peu comme un battleur, comme un comédien. On se dit, c'est pas sérieux, ce bonhomme qui va jouer au théâtre tous les soirs, qui va se retrouver
pour
chez des gens sérieux comme nous. Quoi.
Pour l'Académie Concours aussi, ça a
pour
joué ça
l'Académie
Ah oui, parce que pour l'Académie française,
il avait été pressenti. C'est parce qu'il était acteur.
Voilà.
Et jamais il n'aurait renoncé à son statut d'acteur par admiration pour son père, ça il l'a dit.
Oui, puisqu'il y a un papier dans les archives Guitry, on
il
a une liste faite par
Pierre
Benoît. Pierre Benoît, il fait une liste avec les noms des académiciens, puis il y a des points verts et des points rouges selon ceux qui sont prêts à voter pour lui.
Mais il avait des soutiens pour l'Académie française, il en avait.
Mais je crois que c'était très important pour lui d'être reconnu par ses pairs. Ça s'est très mal passé puisqu'il a fini par démissionner, non sans avoir élu son propre prix Goncourt avec son ami René Benjamin. Alors il y avait une bande dans les journaux, Le Goncourt de Sacha Guitry, donc ça a donné lieu à un procès. Enfin, je crois qu'il était mal perçu parce qu'il était trop touche à tout, en fait, et ça énervait.
Je crois qu'il n'y avait pas que ça. Moi, je pense.
Aussi son histoire avec Colette.
C'est pas que je pense qu'il n'est pas
du tout fait
pour un collectif. Oui. Quelque part, une académie représente aussi un collectif de gens. C'est pas du tout son genre. C'est pour ça qu'il. C'est un outsider. D'ailleurs, c'était sa grande fierté d'être. L'exception qui confirme la règle. Et je pense qu'il n'aurait jamais dû se... Mais en même temps, c'était toujours tentant. Quand on arrive à un certain statut, c'est vrai que c'est une reconnaissance de ses pairs, sauf que ses pairs sont à peu près tous tombés dessus.
Bah, c'était l'Académie où avaient été les grands écrivains qu'il admirait.
Voilà.
C'était pour lui une sorte
Donc lui, par exemple, le rite d'aller à Drouan, ils lui sont tombés dessus parce qu'il invitait les académiciens chez lui à Élise des Reclus. Mais c'était à Drouan, en général, que se passait... ça a l'air de rien, mais c'est ce fait de petits rituels qu'il n'a pas respecté non plus, finalement.
Il a même projeté de léguer ses collections à l'Académie Goncourt.
Ce qui
ne s'est pas fait, évidemment, étant donné la dégradation de leur rapport. Mais en effet, je crois que c'est quelqu'un qui se la jouait perso et qui n'était pas du tout dans la... Et qui avait son monde à lui et qui n'était pas prêt. Il a fait partie de plusieurs jurys, d'ailleurs, et ça ne s'est jamais très bien passé.
En guise de pause, voici un court extrait du film de Sacha Guitry, Le roman d'un tricheur, de 1936.
Je suis né à Pingolade, petit village bien joli de Vaucluse, dont on aperçoit le clocher à main gauche quand on va Vertillac en quittant Cavaillon. Mes parents tenaient un commerce d'épicerie qui leur laissait, bon an mal an, 5 000 francs de bénéfices. Notre famille était nombreuse. D'un premier lit, ma mère avait eu deux enfants. Elle eut avec mon père un fils et quatre filles. Mon père avait sa mère, ma mère avait son père. Ils étaient quittes, si j'ose dire, et nous avions en outre un oncle sourd-muet. Nous étions 12 à table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Un plat de champignons, du jour au lendemain, me laissa seul au monde.
On vient de voir les rapports de Sacha Guitry avec ses pères écrivains, avec les académiciens. Comment on a vu aussi que la critique l'avait souvent éreinté. On va revenir un petit peu sur la critique du cinéma, du monde du cinéma, et sur justement toute son œuvre cinématographique, puisqu'il y a une grande rétrospective. Une trentaine de ses films sont présentés à la Cinémathèque française. Noël Herpe.
Sacha Guitry et le cinéma, c'est un peu je t'aime moi non plus, quoi. C'est-à-dire que dès le début, dès 1912, il dit dans un document que nous montrons dans l'expo, j'estime que le cinématographe n'est déjà plus à son apogée. Cette idée, comme on disait tout à l'heure, que ce qui l'intéresse, c'est le documentaire, c'est éventuellement Chaplin parce que c'est un grand mime. Mais au fond, lorsque le cinéma veut s'aventurer sur le terrain du théâtre, il estime que c'est de la concurrence déloyale et que ça peut pas marcher. Et puis, il va changer d'avis petit à petit, surtout au moment où le cinéma devient parlant, où son ami Pagnol, lui, il est silence vraiment complètement. Et en fait, il hésite. Hein. Il commence à aller dans les studios en cachette. On lui fait faire des essais. Je crois qu'il n'a pas dû se plaire beaucoup à ce moment-là. Sans doute en grande partie sous l'influence de Jacqueline de Lubac, donc sa troisième épouse. Enfin, en tout cas, avec sa complicité, qu'il se lance dans cette aventure. Mais
c'est quoi le film marquant?
Enfin, disons qu'il y a un double. C'est intéressant parce qu'on dit toujours, c'est le cliché. Sacha Guitry n'a fait du cinéma que pour cinématographier ses pièces. Alors, effectivement, il fait Pasteur, qui est vraiment une sorte de mausolée à la double mémoire de Pasteur et de son père jouant Pasteur. Mmh. Parce que c'est tout ça qui l'intéresse. Enfin, c'était l'entreprise par laquelle il se met dans les pas de son propre père, jouant une pièce qu'il avait écrite pour lui, par une sorte d'effet de miroir assez vertigineux. Mais en même temps, comme on le disait, il fait aussi Bonne Chance, qui est un film presque nouvelle vague avant la lettre, en tout cas avec un côté front populaire.
C'est quelle année ?
On part sur les routes, liberté d'écriture, 1935, les deux films. Donc très vite, il a fait des scénarios originaux, il ne s'est pas contenté de faire du théâtre filmé. Très vite, il a fait ses films très ambitieux.
Le premier film, 1919, le film disparu.
Alors là, on revient avant.
C'est son premier film, bien sûr. C'est un scénario original, il a écrit pour le cinéma. Mm-hmm. C'est tout à fait désolant d'ailleurs qu'on ne le trouve pas, parce que c'est vrai que quand on lit la critique, il y a déjà un Guitry qui recherche quelque chose. Mmh. Parce que moi, j'ai une sensation plutôt de gros chat malin vis-à-vis du cinéma. D'abord, il est souvent dans la provocation, donc il aime bien provoquer le cinéma. Mais en même temps, on se rend compte que dans certains, il utilise le cinéma dans le dispositif déjà de ses pièces. Et qu'il a un effet de prudence. Il est évident que le cinéma muet ne le satisfait pas, puisque ce fameux film disparu fait déjà des recherches, apparemment, d'après la critique, il y a des recherches sur les titres, les intertitres.
Ouais.
Hein, c'est eux qui alourdissent, en fait, les films muets et qui compensent le manque de dialogue. Donc déjà, il y a une recherche. Et ensuite, il repasse à l'attaque, mais enfin, il revient. Je pense que les essais qu'il fait en studio, c'est à l'arrivée du parlant, ça c'est du Guitry, c'est un perfectionniste. C'est un grand orgueilleux aussi, hein. C'est pas quelqu'un qui a envie de louper. Il veut que ce soit très 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 bien, comment dire, à l'arrivée, dans une espèce de merveilleuse spontanéité, et en fait, il y a un travail là-derrière. Donc il y a quelque chose, une avancée vers le cinéma, qui est à grosses pattes comme le chat, qui est très très prudent, ou un félin, disons un félin. Mais en fait, il a envie de vraiment sauter le pas, c'est au moment, en effet, du parlant.
Mais oui, parce que ça rejoint toute l'oralité de son écriture aussi.
Là, voilà. Parce qu'il va pouvoir jouer et s'amuser, et finalement, que ce soit à travers ou le Perle de la Couronne, il va apporter...
Des films historiques, qui ne doivent rien au théâtre.
Qui est en plusieurs langues. Déjà, il y a les recherches sur le son.
Il y a un effet sur le montage alterné, et sur la confusion des langues. Mais il y a en même temps, un paradoxe, c'est que Guitry n'arrête pas de dire, moi je n'aime pas le cinéma parce que le cinéma c'est du réchauffé, c'est du refroidi, l'acteur ne joue pas, il a joué,
c'est la plus célèbre.
Ça ne peut être que la trace de quelque chose qui a déjà été, contrairement au théâtre où on est dans l'immédiateté. Et pourtant, c'est ça qu'il développe au cinéma. Hein. C'est vraiment, on a l'impression que c'est ce qu'il déteste dans le cinéma qu'il développe et dont il fait le principe de son cinéma, c'est fixer le passé.
Ou alors il cherche des contrepoisons. Le roman d'un tricheur, c'est un contrepoison à ça.
Dans le roman d'un tricheur, à la fois il utilise le côté le cinéma c'est du passé, l'acteur a joué. Vous voyez, le cinéma finalement, ça n'est que ça, que des images mortes. Mais moi, Sacha Guitry, de théâtre, je vais vous parler en direct. Donc il contourne effectivement, il recrée l'effet de direct à sa manière. Il réinstalle le théâtre dans le cinéma. De la même manière qu'il le fait dans ses émissions de radio d'une manière absolument géniale, par exemple en faisant cette émission qui s'appelle Les 100 Merveilles, où il, donc c'est une série qu'il a faite avec Pierre Loss dans les années 50, et où il dit aux gens, vous avez ce livre où il y a des reproductions d'œuvres d'art, ça va de la Joconde à Matisse, et bien vous allez aller à la page 362, je vais vous commenter l'œuvre en direct.
Nous sommes à la radio.
Et j'en profite d'ailleurs, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, pour vous souhaiter une bonne année, pour vous dire que, etc. Enfin, il joue d'une espèce d'intimité mise en scène, comme s'il voulait toujours garder le lien avec le public, garder cette espèce d'intimité qu'on a au théâtre, ne jamais perdre la main, ne jamais perdre le lien.
Il est tout le temps présent dans ses génériques, compris, tout de suite, dès que les films commencent, on a la voix de Guitry.
Dire c'est moi qui décide
tout. Et lui à l'image.
Absolument, dire que c'est moi, je suis là au départ. Créer, je dirais, quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la complicité un peu enfantine, hein, il y a quelque chose d'assez ludique, je vous prends la main et on va jouer ensemble, et en même temps quelque chose aussi de très adulte. C'est ne soyons pas dupes, nous jouons, mais ne soyons pas dupes, ça n'est qu'un jeu.
C'est un merveilleux conteur.
Oui, c'est certainement une de ses grandes facultés.
C'est d'abord un conteur, je dirais.
Alors, il a fait des films historiques, on a un
petit
peu évoqué,
des grands et des petits. Comme le Mont de Cambronne, plus modeste.
C'est quand même la continuation de son théâtre. L'histoire est une des donnes de son répertoire. Hein. Il commence pratiquement avec Histoire de France en 1929. Grande fresque qu'il a essayé d'ailleurs de transformer en film. Ça aussi, il faudrait dire aussi le nombre de films qu'il n'a pas tourné. Il disait lui-même que souvent, pour plus intéressant d'un auteur, était parfois dans ses cartons ce qui restait.
Et qu'est-ce qu'il souhaitait faire?
Et donc, c'était de transposer justement en passage au parlant en 1932, Histoire de France. Mais donc l'histoire, il l'utilise déjà au théâtre. Il est fasciné par l'histoire, il est fasciné par les grands hommes, il est fasciné par la royauté, ça rejoint l'admiration dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, très, très légitimement, le cinéma va lui permettre de donner encore plus d'ampleur à une reconstitution historique que ne peut le permettre le théâtre. D'où les perles de la couronne.
Et puis le diable boiteux qui va être un peu son plaidoyer pour de bon.
Remontons les Champs-Élysées,
Si Versailles m'était compté.
En plus, la couleur arrive.
Alors là, on est passé tout à l'heure du muet au parlant, du parlant à la couleur. Mmh. Et alors c'est là peut-être que les critiques de cinéma ont été cette période-là très virulentes contre lui.
Il y a eu une grosse polémique autour de Versailles m'était compté, puisque le film avait été fait avec la bénédiction de l'État qui avait permis de tourner gratuitement. Dans le château de Versailles.
C'était lié aussi à la
reconstitution. Qu'il y avait de l'argent de l'État, ce qui n'était pas le cas. Oui. Mm-hmm. Mais oui, c'était lié au fait qu'une partie des recettes a été allouée à la restauration du château. Mais il y a eu une grosse polémique, même jusqu'à la Chambre des députés, où on a dit qu'est-ce que c'est que ce film qui représente une image complètement grivoise de l'histoire de France, qui vraiment diminue nos grands hommes, diminue la Révolution française, etc. Enfin, de droite comme de gauche, ça tapait vraiment à tout va.
Et les cinéastes, le monde du cinéma, comment a-t-il accueilli ces grandes fresques?
Les professionnels de la profession n'aimait pas Sacha Guitry. Oui. Hein, c'était vraiment perçu comme un boulevardier qui faisait des films comme ça, qui ne faisait pas du cinéma, qui faisait du théâtre filmé.
Alors, comment la...
Le premier à avoir dit le contraire, c'est François Truffaut, quand même, faut quand même le dire.
Alors, comment la nouvelle vague s'empare de Sacha Guitry, enfin, ou
à cause de son insolence, je pense, de son anticonformisme, de sa liberté de ton, le fait que, comme je disais tout à l'heure, il appelait un chat. Je crois que c'est à ça qu'était sensible Truffaut, le fait que c'est l'auteur complet. On peut pas être plus auteur que Sacha Guitry. Auteur, acteur, metteur en scène, au fond, tout ce qu'on fait. Et puis, je dirais que c'est l'absence de dogmatisme, c'est-à-dire qu'il est capable de faire un faux raccord s'il le faut, d'avoir une prise de son défectueuse. Au fond, ce qui l'intéresse, c'est surtout à la fin, dans les derniers films, Assassins et voleurs, où parfois il y a des choses pas très catholiques, mais parce qu'au fond, il a quand même ce rapport au direct et à l'instant, qui était finalement assez peu présent dans un cinéma français de studio, souvent compassé, enfin ce cinéma de qualité que dénonçait, peut-être à tort parfois, Truffaut. Et puis je crois le côté un peu anarchisant, le roman d'un tricheur, l'éloge de l'individualisme, de la débrouillardise, auquel Truffaut était personnellement sensible. En tout cas, c'est vraiment lui, hein, quand on regarde la presse des années 50, une grande revue comme Art, où vraiment on tapait comme partout ailleurs sur le cinéma de Guitry, et c'est vraiment Truffaut qui inverse la vapeur et qui fait un coup de force théorique, qui entraîne même André Bazin, qui n'y croyait pas tellement, et qui leur dit « mais non, Guitry, c'est formidable ». Et là, tous les cahiers vont suivre, hein, que ce soit Godard, Yvette, Romère, et aujourd'hui, je dirais que tous les cinéphiles reconnaissent... Et célèbre l'importance de Sacha Guitry.
Absolument. Pour le reste, il faudra quand même dire de son vivant, il ne fut pas un cinéaste maudit.
Non.
Il a eu des succès publics.
Oui,
les films marchaient très bien.
Non, c'est
vraiment la critique.
C'est la critique qui les rintait.
Mais qui passait complètement au-dessus, il faut bien le dire, de la
je crois que
du public qui le suivait.
C'est un peu lié à ce qu'on disait tout à l'heure. Il l'a provoqué, la critique, en même temps.
Mais il l'a provoqué. Il a mis ça. Mais je crois qu'il a toujours été, depuis le début, ses premiers articles d'un comédien, dans la provocation. Il a mis ça.
Alors, il aimait faire croire qu'il ne travaillait pas, il aimait faire croire.
Alors
que,
il a toujours beaucoup travaillé, compris sur le montage, il avait une machine chez lui.
Absolument, sur la musique. Ses films, il y a une construction musicale très, très forte dans ses films, et un travail avec des gens comme Jean Français, ou Louis Guy, ou Adolphe Borchard, avec une musique qui est vraiment conçue en fonction des effets. Et même dans Désiré, il y a des effets de montage à partir de la musique qui sont extrêmement subtils. C'est pas du tout quelqu'un qui se contente de filmer ses pièces comme ça. Je dirais qu'en ça, il est peut-être plus perfectionniste que Pagnol. C'est vraiment, il reconstruit un objet nouveau à chaque fois.
En fait, toutes ces expériences au théâtre, mais il les a transposées aussi au cinéma. C'est-à-dire que ce côté perfectionniste que vous évoquez, il l'a cultivé jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Il a même très diminué. Il a tourné ses films puisqu'il était très affaibli physiquement, dans des conditions corporelles, physiques, vraiment, vraiment délicates. Et il a continué à faire des films. Et même quand il n'en faisait pas, chez lui, il montait.
Ce qui le caractérise pour moi, c'est vraiment la maîtrise à toutes les phases, y compris ce qu'on ne montre pas dans l'exposition, mais c'est même la maîtrise des budgets. Mmh. Une des choses, entre autres, quand il attaque le cinéma coûte cher.
Oui.
Plus cher que le théâtre. Mmh. Donc, cette façon de travailler extrêmement précise, c'est aussi pour éviter les dépassements. Et c'est vrai qu'il sera réputé pour ne jamais dépasser, même dans ses grands films historiques, d'un sou. Et on le voit aussi dans ses papiers personnels, c'est un homme qui maîtrise ses dépenses aussi bien théâtre, les recettes, dépenses, recettes, que ce soit pour les galas. C'est un aspect de Guitry qu'on ne connaît pas, parce que ça c'est vraiment dans les papiers personnels et les papiers de travail qu'on le voit. Ouais. Mais ça explique aussi, il ne sous-traite rien, c'est-à-dire que toutes les
il a
phases,
la mainmise de
voilà,
A à Z.
Que ce soit au théâtre, au cinéma, un gala, il maîtrise toutes les phases.
Un homme complet, perfectionniste. Comment était-il perçu, alors, cette fois à l'étranger, traversons un peu les frontières. Bon, on sait qu'Orson Welles est venu jouer dans ses films et qu'il l'aimait, enfin qu'il s'appréciait tous les deux. Est-ce que le cinéma de Sacha Guitry a été montré, je ne sais pas, ailleurs en Europe,
c'est l'Atlantique, de toute façon,
il était connu des autres cinéaste étranger, enfin.
C'est une époque où les films français sont très bien distribués. Hein.
Oui.
Déjà, ne pas resituer quand même à ce moment-là, avant 40, le cinéma français se distribue très bien. Toute l'Europe est très ouverte, avant la guerre en plus.
Hein. Oui.
Peut-être puis.
Il a fait des grandes tournées au Canada.
Voilà. Alors, il est très très célèbre, surtout du temps d'Yvonne. Il faut quand même dire qu'Yvonne aussi
d'Yvonne
est
printemps.
Une star, hein, elle aussi dans son genre. Et la saison des Guitry à Londres, où ils iront plusieurs fois. Avec
quand
Lucien Guitry de son vivant,
voilà,
et puis ensuite...
C'était ensemble, mariés.
Voilà, les Londoniens, aussi bien la très bonne société, parce qu'ils vont vraiment être reçus, par exemple, chez les parents de Nancy Cunard, au plus haut niveau, la famille royale les reçoit aussi. Quand ils vont en Belgique aussi, d'ailleurs, ils sont reçus au plus haut niveau. Ils sont très, très appréciés en Angleterre. Et lui est très anglomane. Guitry. C'est pour ça qu'en effet, il n'était, par exemple, pas du tout attiré par la culture allemande.
Il a toujours refusé de jouer en Allemagne.
De rejouer, mais il adorait tout l'Angleterre. Ça, c'était pour lui, les pays anglo-saxons.
Il a même joué en Russie, mais je crois que ça a été assez catastrophique en Russie.
Non, mais ça, oui, là, c'est... Il aimait beaucoup l'aristocratie. Hein, et là-bas, à Londres, il y avait encore tout ce côté de vieille aristocratie anglaise.
Il est retourné en Russie.
Et c'était sa première tournée, oui, qui était organisée par Amar Goulin, et ça s'est très mal passé, mais c'était vers 1910.
Une tournée foireuse, oui, très foireuse.
Mais pour son cinéma, je suis un peu moins sûr, quand même, à part le roman d'un tricheur qui a été distribué aux États-Unis,
que tu redistribues après la guerre tout de suite.
Il y a eu des projets de remake.
Tout de suite, si, ces films, les films sortaient. Mais c'était pas, disons, personnel à... Non, mais avant-guerre, je parle. Avant-guerre, tous les films français étaient très, très bien distribués.
Et ces films après-guerre, alors ?
Si Versailles m'était compté, a été montré.
On est surpris de revoir très vite après l'épuration que les États-Unis, justement, le roman d'un tricheur ressort aussi bien à New York qu'à Paris.
Il y a eu plusieurs projets de remake de ce film.
Des projets de remake.
Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Sacha Guitry soit encore très connu à l'étranger, en tout cas aux États-Unis, peut-être moins que Cocteau, par exemple, parce qu'il y a ce côté très, très oral du texte de Guitry qui n'est pas toujours facile à
traduire.
Après, maintenant, c'est dans les cinémathèques. C'est vrai,
très oral et très français.
De New York, la poison est ressortie, les choses. Mais c'est pas dans, en effet dans les circuits de distribution commerciaux. Ça.
Quels seraient les cinéastes aujourd'hui qui pourraient se...
Question piège. On travaille un peu autour de l'exposition avec Bruno Podalides, qui connaît bien Guitry, qui en parle très bien, qui est sensible un peu au côté... Il dit très, très joliment, s'il y avait un rôle que j'aurais pu donner à Guitry, si j'avais dirigé, ça aurait été Arsène Lupin. Mm-hmm. Il aime bien comme ça son côté, son côté homme à transformation. Disons que c'est plutôt un esprit Guitry qui s'est transmis à travers la Nouvelle Vague, puis dans des cinéastes comme Jean Eustache un peu plus tard. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui c'est plutôt une manière d'aborder le cinéma, une façon de décomplexer,
une distance,
oui, et puis une forme de fantaisie,
de légèreté,
légèreté, quoi, le fait de pas prendre le cinéma, enfin d'être sérieux, mais en même temps en sachant s'amuser
et
en sachant amuser le spectateur.
Et de ne pas montrer le côté sérieux, tout ce que vous avez découvert dans les archives, justement tout l'effort et tout ça. Pour conclure, Noël Giray, quels sont les trésors de cette exposition, vos coups de cœur? Vous avez travaillé pendant des mois sur cette exposition.
Ce sont des ensembles. Peut-on dire qu'il y a une pièce... Oui, il y a une pièce qui m'a beaucoup touchée. Je pense que Noël aussi a été touchée. C'est le portrait de la mère de Guitry. Personnage qui a quand même été effacé par ces deux grands hommes, pour ne pas dire totalement écrabouillé. Et le musée de Reims conserve un portrait. Elle appartenait au cercle en fait de Sarah Bernhardt et de l'amie de Sarah Bernhardt qui était la peintre Louise Abéma. Et donc il y a un portrait de la mère de Sacha à 19 ans, qu'on a pu emprunter, qui est là pour l'instant, est au mur, on attendait son arrivée, et qui est une chose tout à fait charmante, tout à fait pas connue d'ailleurs, et on voit d'ailleurs que Sacha ressemble à sa mère. Pour le reste, c'est des ensembles, je parlerai, c'est dans les photos. Par exemple, le mur qui reconstitue les années, ce que j'appellerais vraiment, je crois que le grand amour de Sacha, c'était Yvan de Printemps. Et que cet ensemble de photos, ils sont beaux, ils sont jeunes, elle est habillée par Jeanne Lanvin. Il y aura d'ailleurs une robe de Jeanne Lanvin dans l'exposition qu'on attend avec beaucoup d'impatience, qui va être déballée demain. Donc je pense que c'est plutôt des coups de cœur qui peuvent se produire comme ça dans l'exposition sur des ensembles de documents. Qu'une seule pièce comme ça, ravageuse.
Voilà. Noël Herb, quels sont vos films préférés de Sacha Guitry?
C'est encore plus difficile de répondre. Moi, je dirais que j'aime beaucoup les films, justement, un peu anards de Sacha Guitry, La Poison, Assassins et Voleurs, La Vie d'un Honnête Homme, parce que c'est un autre Guitry, c'est un Guitry proche de Mirbeau, de Jules Renard, différent du Guitry léger et superficiel qu'on croit connaître. Dans les films des années 30, j'aime beaucoup Quadrille ou Désiré, je trouve que là, il y a vraiment quelque chose, il a inventé un type de comédie totalement unique. Je dirais là, au fond, c'est pareil. Guitry, c'est un ensemble. C'est pas un cinéaste comme Dreyer ou Buñuel ou Bergman qui a fait un chef-d'œuvre. On peut pas dire qu'il ait fait des chefs-d'œuvre. C'est un esprit. C'est une liberté. C'est une façon d'aborder la vie et le cinéma qui se transmet à travers tout ce qu'il fait, quoi. Une sorte
de... Alors, il ne nous reste plus qu'à donner rendez-vous aux internautes, à la Cinémathèque française pour redécouvrir tous ces films. Et puis aussi visiter l'exposition Sacha Guitry, une vie d'artiste que vous avez conçue. Merci d'être venus à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci.